car ses œuvres posent en réalité ce contemporain comme question d'un drame anonyme de l'écoute basé sur une superposition cosmo-musicalement virtuelle d'opus dérivés, qui coordonne, synthétise par superposition hétéro-rythmique, sans fin, ses nouvelles œuvres à venir par une mise en abîme fractale d'un concept d'auteur qui se structure de manière dramatique à la manière d'un sismographe cosmique de l'événement dualement en relation divisée entre le corps résonant d'une écoute musicale et la pensée compositionnelle d'une philosophie, c'est-à-dire entre une philosophie du Big Bang et l'écoute cosmo-musicale d'un art du silence. En outre, cette relation est une expansion générique de sa démultiplication et ne se réduit justement pas à des rapports rudimentaires, à deux par analogie ou par métaphore, ou encore par formule canonique, car ce sont des relations en réseaux écumants qui ne sont jamais totalisables, en des rapports globaux basés sur un fondement fixe, car sont aussi mouvants qu'une mer en devenir. Donc, pour répondre directement à votre question que vous m'avez posée, je tente depuis cette année de conjoindre ce que cette disjonction anthropiquement académique du monde contemporain sépare, en coordonnant l'antique et le moderne par la création de figures génériques de l'événement qui peuple cette musique sans son et dont la nature et la substance sont inconnues et inaudibles parce que non essentialisables par un seul langage, notamment venant de Badiou et de la machine informatique, car faite de discours philosophiques en prolifération orchestrale de l'heure possible. Voilà pour le peu de ce que je peux en dire sur où j'en suis. Une philosophie du Big Bang comme contemporaine d'une troisième révolution cosmologique serait peut-être une révolution de la sensibilité et non uniquement celle d'un nouveau savoir rationnel qui structurerait encore les couches superposées de notre connaissance, pour reprendre un mot célèbre de Claude Lévi-Strauss. Cependant, Théodore Adorno était dans sa dialectique négative en train de mettre en garde l'art d'un risque de pseudomorphose avec la philosophie par l'entremise d'un exil cosmologique de notre manière d'exister dans le monde contemporain à l'époque des années 60. La question de savoir si le mot aurait que pour fonction d'expliquer la musique, l'art ou la poésie serait remis en cause peut-être par cette écoute cosmologique face à une époque, il faut le dire, qui produit plus de théories marquantes visibles de manière directe que d'œuvres qui font date de manière créatrice à la vie et à la pensée. Qu'attendons-nous pour questionner la vérité du contemporain comme découverte de l'émancipation dont l'immanence est en ligne de fuite de la transcendance du génie? N'existe-t-il pas un piège dans cette transcendance qu'on accuse souvent de point de vue paresseux quand on la remet en cause? Bref, le piège d'un esprit classique qui n'est pas méta? Car effectivement, l'événement n'est pas un fait, mais il n'est pas non plus une essence, il est un concept. Un concept immanent à l'imagination créatrice de cette expérience multiple qui est écartelée par le foule cosmique des énergies génériques du chaos. En ce qui me concerne, j'ai traversé étrangement des époques douloureuses de la société contemporaine par Facebook et come to be an imprender gauge comme relevant d'une époque révolue aujourd'hui. Car le distanciel est une réalité depuis l'épidémie généralisée mais sous la forme d'une égalisation mensongère du commun et que je trouve souvent nécessaire d'en passer outre, juste pour continuer à tracer mon sillon point. D'ailleurs, en réaction à cette lassitude, j'ai écrit en ce début d'année une œuvre qui rassemble en plus de 200 pages des aphorismes poétiques écrits depuis 5 ans sur Facebook avant de les avoir effacés, qui questionne de manière tragique cette folie de la disparition qui fait dire à Laruelle que le monde a disparu dans l'univers sous la forme d'une mutation incontrôlable nous amenant à nous questionner sérieusement sur ce qu'est être créateur aujourd'hui à l'échelle non pas uniquement de sa professionnalisation établie mais sa celle philosophique des faits et événements où cet univers montre parfois impossible dans des moments de partance qui en surgit dans des constellations plus périphériques et moins codifiées de manière a priori.
Mais mon cher ami, peut-on penser l'absolu? Peut-on connaître l'univers sans un rapport situé dans notre inconcevable monde illimité, fait de déflagrations dialectiques et de devenir métaphysique? Est-ce que l'absolu est si aporétique que cela? Est-ce que la liberté relève d'un inconcevable silence qui résiste à nos désirs et à nos dominations les plus sauvagement erratiques? la cosmologie lacanienne du chaos est une puissance, mais une puissance de vie terrifiante. Car c'est la puissance infinie de la fin de l'époque d'une modernité. La fin de l'époque d'un autre possible dialectique qui rend infinie une mathématique du monde, dans son sombre chaos. La physique anaximandrienne du chaos est une ancestralité cosmologique, non pas du passé, qu'on serait supposé faire émerger avec la maturation de l'histoire, mais une existence en acte de l'événement dans l'ici suspendu du silence. Confucius, la liberté, est-ce réellement une question spéculative? Peut-on considérer la philosophie comme un art de la pensée et de la réflexion? Laozi, l'ignorance de l'humanité, est-ce préférable à la guerre? L'ordre du monde, est-il en mesure d'être défendu en vue d'éviter le chaos illimité du réel? La loi dialectique de l'humanité est-elle à défendre face à tout hors la loi qui trouble notre sommeil sidéral de 100 lieues? Bouddha, est-ce que résister a un sens dans le monde d'aujourd'hui? La résistance est un éveil au monde, et non une contestation critique de son absence de possible. Mais quelle résistance? Une résistance spirituelle? Une résistance intellectuelle? Une résistance poétique? Une résistance métaphysique?
Car l'écriture de cette œuvre est la transcription de folie poétique du Big Bang, qui a témoigné d'une foule de personnes qui ont milité contre la sixième extinction et contre des menaces qui mettent en question notre existence dans sa multidimensionnelle réalité irréductible, à sa seule technologie et à sa seule vie solitaire. Et pourtant, cette question s'impose. La solitude est naïve, et ce que nous avons de plus précieux dans des circonstances de péril irréversible pour le monde, et donc pour toute existence qui ne prend pas de distance avec ce dernier parfois. Car je suis passionné de cette écume chaotique de négation et d'affirmation quand ce champ de bataille métaphysique devient la musique d'une autre pensée, en devenir. Ma surprise, qui n'en est pas une, vient du fait tout simplement que la science pose des questions politiques tragiques quand on tente de répondre à la question « quelle science ?». Car la science est ce qui répond à la détermination de toute négation suspendue par le champ de bataille et dont la beauté poétique d'une expérience créatrice en fait vivre cette série sans fin de négation et d'affirmation comme un passage vers une nouvelle œuvre qui fait s'étirer à Schoenberg que ce sont pas les théories, en art qui font événement mais bien les grandes œuvres. C'est pour cette raison que la science est un matériau sombre du contemporain, donc la pensée est en atomisation permanente de ses négations et de ses affirmations, et dont les conflits sont sans fin, et dont la tension dynamique doit encore inspirer, mais en diagonalisant ses négations et ses affirmations. Car j'ai remarqué de manière empirique par des paroles et par des témoignages que l'égalitaire est criminalisé comme ennemi de la culture par les gens de la culture, et que seule la liberté serait l'idéal du vainqueur qui défend ses valeurs au nom de son infini perdu de Don Quixote dissident. Mais l'infini est perdu, telle est la singularité non euclidienne du monde contemporain. C'est où les choses arbitrent réellement les possibles jamais les valeurs universelles. Pour la raison simple que les valeurs qu'on défend sont celles créées par l'histoire du passé et qu'il revient d'en créer de nouvelles pour rendre infini ce chaos monstrueux qui atomise ses appartenances et ses non-appartenances dans l'abîme du réel. Il faut haïr la culture au nom de la culture, disait Thomas Bernard, parce que c'est comme cela qu'on peut inventer quelque chose qui vaut comme infini au milieu du chaos. Car le chaos est infini en acte, comme art qui différencie un Stravinsky d'un Saint-Saëns, ou encore un Beethoven d'un fils de Bach, en tant que justement on ne peut pas rester splinglerien indifféremment sans regarder cette égalité non comme un idéal, mais comme un drame compositionnel de la raison inconsciente qui atomise, de manière à l'infini, l'univoque réel cosmiquement adornien du devenir autre des injustices dont Beckett en questionne le temps infini de la continuation de l'impossible. À quand un art du silence qui transvalue l'opposition entre le révolutionnaire égalitaire qui fait table rase du passé est l'antitotalitaire qui défend sa liberté de penser au nom de la vérité historique de son atavisme. Libre à nous de considérer l'art, la science, l'amour et la politique pas uniquement comme des vérités, mais comme des musiques qui sont en superposition cosmotragique de leur devenir et de leur processus, et où l'exclu du monde contemporain doit être regardé comme porteur d'art, en contradiction avec la culture, et peut-être par l'érosion du temps deviendra une culture contemporaine de l'histoire et de son possible incertain que la mer du réel enfouit comme simple sable toute certitude universaliste et toute contestation égalitaire. Ma seule certitude pourtant n'est pas l'art, mais la mer infinie de l'univers sombre de mes angoisses joyeuses quand je continue à écrire avec inspiration. Je vous ai envoyé tous ces mots pour tout simplement parvenir à enrichir cette récurrence pauvre si elle ne fait écouter qu'une seule dimension de cet hyperespace infini qui est en réalité l'hyperespace symbolique du monde contemporain après celui de l'espace-temps minkowskienne et cinématographique des temps modernes dans leur film à sens chronodialectique. Mais malheureusement, comme disait Boulez, plus on tente de se faire comprendre, plus on devient obscur.
Donc j'ai pris un risque de l'expliquer tout en restant obscur, car cela est inévident en effet, et donc je vous rendrai son de votre objection dont je m'embarrasse de m'en faire part moi-même à la fin de chaque journée depuis très longtemps déjà.
J'ai une question à vous poser, en toute simplicité. Avez-vous entendu parler de Pierre Boulez? C'est un compositeur que peut-être vous ne connaissez pas et qui mérite d'être connu et d'être inclus dans les grands ignorés de l'histoire de la musique. J'espère que vous en prendrez soin dans votre prochain livre. Le trou noir utopique de l'inconnaissable mène-t-il vers un futur qui soit autre que l'illimitation sombre de nos effondrements et de nos chutes? Le futur est-il fixé une bonne fois pour toutes dans la marche en avant dialectique du monde? Le trou blanc insurrectionnel du temps est une idée. Mais quelle idée? Une idée de l'univers? Une idée du monde? Une idée de l'humanité? Une idée de la musique, une idée de la société, une idée de l'Europe, une idée de la planète, une idée de l'infini, une idée du chaos, une idée de l'illimité, une idée de la révolution, une idée de l'amour, une idée de la vie. La dialectique platonicienne de l'énergie noire est une galaxie insurrectionnelle qui dure longtemps, plus loin que l'horizon du néant. L'errance hölderlinienne de l'accélération cosmique est une invention. Mais quelle invention? Est-ce l'invention de Beethoven? Est-ce l'invention de Bach? Est-ce l'invention de Platon? Est-ce l'invention de Boulez? Est-ce l'invention de Gramsci? Est-ce l'invention de Kundera? Est-ce l'invention d'Homère? Est-ce l'invention du premier homme préhistorique?
Mais ce dont je suis certain, c'est que d'autres plus hauts que moi dans leurs quêtes intellectuelles m'ont déjà devancé depuis longtemps, et cela m'émeut beaucoup aujourd'hui vu que ces autres sont en réalité aussi vulnérables que n'importe quel innocent aspirant. Pensez le Big Bang dans sa cuisine, comme l'a fait Grothendieck à la fin de sa vie, en ignorant pourtant que ce Big Bang dépend d'une armée de calculateurs internationaux et non de la seule assaise solitaire d'un puriste des mathématiques modernes. Mais il existe un revers historique à tout cela, le fait justement que l'opinion qui domine dans une masse sans fin d'individus va préférer toujours le compréhensible à l'incompréhensible, parce que ne pas comprendre par liberté est un acte solitaire qui se rapporte au commun si l'art est politisé comme éducation à faire comprendre à autrui qu'il existe des choses absolument incompréhensibles et pourtant immanentes à notre raison la plus délirante, parce que la raison est plus vaste que l'entendement compréhensible de nos catégories qui sont mutantes dans la foule des niveaux de réalité qui font basculer leurs niveaux de comprehensions. En conclusion, il n'existe pas d'un côté du compréhensible et de l'incompréhensible, mais des foules de niveaux de comprehensions dont un jour ce qu'on ne comprenait pas comme intéressant peut devenir passionnant, et vice-versa.
Ce qu'on croyait passionnant devient trivial après qu'on a tenté d'en approcher l'énigme.
Je remarque aussi que, souvent, on m'a reproché un hermétisme conceptuel qui ne repose jamais sur une quelconque exigence de partage, sous prétexte que le compréhensible donné en premier abord est en apparence plus essentiel que parfois la profondeur intellectuelle donnée sous la forme apparente de ce qui ne se comprend pas. Mais face à cela, un certain commerce de l'intelligence militante peut mener à des ostracismes doux, quand parfois un autre écrivain ou philosophe dit que ce que j'écris est fragile d'un point de vue éditorial et que sans soutien de l'État, je n'ai aucune chance de publier. Cette tendance, en réalité, à faire de la philosophie comme canonisation d'un modèle marque profondément notre époque intellectuelle soumise à une ancestralité originaire de l'ordre, comme ce qui se pose comme absolu et donc comme canon universel de notre supposée histoire, ou face à cela, une transgression du canon par la voie d'une politique de critique contre l'ordre en question. Je crois que parfois, un écrivain qui joue au marginal, tout en étant totalement intégré dans le système commercial, est moins intéressant qu'un autre écrivain qui est mis de côté par le système commercial, mais dans un sens qui le rapproche d'autrui, là où il croyait jadis s'en éloigner.
Vous pouvez compter sur mon attention à ces écrits dans lesquels j'ai le vif espoir d'éclaircir ce que vous entendez par le préfixe « cosmo », dont j'ai repéré que vous faites un usage d'une régularité qui renforce mon étonnement.
Notre époque manque de créateurs et de créatrices qui croient réellement en la force beethovenienne du chaos comme volcan poétique de l'infini.
C'est une sacrée question que vous me posez. Cosmos comme espace de possible pour un temps musical de la philosophie qui se compose, non pas à partir d'un matériau, mais d'une accumulation surnuméraire de matérialité sombre, dont le surnombre déborde la pensée et de l'ouvre, et qui fait de la musique, l'acte d'une énergie cosmique qui se capte par la force d'un grand déhors, événementiel qui diagonalise le temps antiquement mythique de la nature et le temps modernement historique de la technique. C'est pour parler simple la logomythie événementielle qui rend possible de faire du mot contemporain plus qu'un mot qui vient uniquement de nos constructions, mais un réel vécu, avec des personnages génériques, qui sont contemporains de cette temporalité multiple. Bref, je pourrais encore dire plus, car en réalité c'est une question que je me pose à moi-même encore aujourd'hui à travers des influences très contradictoires et irréductibles à une seule idée cohérente. Et peut-être est-ce bien comme cela.
La beauté sauve le cœur pur de sa révolte perdue. La beauté est ce qui délivre d'une violence peu connaissable par la modernité connue de notre système galactique, qui est la violence cosmique de la vérité, comme principe unique d'écoute et de ressenti. On ne peut pas considérer la vérité comme l'unique voie humaine du monde face à l'illimitation sombre de notre inhumanisation galactique de la vie dans sa dureté la plus abrupte et parfois la plus injuste. La violence du monde n'épargne pas le cœur pur qui croit en la vérité de sa révolte, mais elle rend tranquille la brute qui ne croit qu'en sa mission de technicien de l'illimité. Le cœur pur est ce bon qui est fidèle à ses rêves d'enfance parce qu'il n'est pas le truand qui ne croit qu'en ses jeux de langage de bandit du chaos. La beauté irradie l'univers, mais uniquement irradie le processus cosmique de son écoute quand il est disposé à vivre et à penser sa vie autrement qu'en avançant et en sortant parfois de ses zones routinières et de ses sécurités despotiquement affirmé comme absolu. Mais la beauté ne suffit pas sans une conscience déchirée de la vérité inflationnaire du monde dans son tunnel dialectique de l'impossible. Je ne peux croire uniquement en la beauté qui sauve le monde sans penser la vérité inflationnaire de son impossibilité finie et de sa possibilité mouvante.
Je crois que l'incompréhensible dans le domaine intellectuel appartient au concept tragique d'égalité dans le monde contemporain. C'est un humanisme de la marge qui transmet son art et sa science à des zones périphériques qu'on n'a pas attendues.
En faisant de cette parole une musique en devenir qui résonne de manière cosmologique, un silence où le sonore est un dire théorique contemporain de sa poésie compositionnelle. Son silencieusement en résonance permanente, comme si John Cage était devenu contemporain de la société dans une réalité qui dépasse le musical, qui est une réalité cosmologique entourant notre parcours le plus singulier au milieu d'une situation globale de chaos.
J'écris une nouvelle œuvre qui met en rapport ma passion d'enfance pour Stravinsky et l'illusion que j'ai pu avoir de manière délirante que j'étais le nouveau Stravinsky, avec comme constat d'une illusion générale du monde contemporain en rapport à des identifications pathologiques qui viennent de l'industrialisation cognitive de la mémoire, de la perception, du sentiment et de l'expérience, comme si l'économie contemporaine était dématérialisée en une cognition sidérale qui traverse la folie commune de notre époque sous la forme d'un envoûtement hypnotique. Stravinsky, dans ce récit, est mis en abîme par un personnage qui se nomme Igor, un siècle après l'époque du compositeur, comme pour questionner la dynamique technique d'une histoire suspendue en trou noir dialectique et qui incommensurabilise le rapport entre aujourd'hui et hier, et donc avec la prétention d'un avenir tourné vers l'avenir. Comment avoir un rapport créateur à la mémoire, en sachant que cette dernière est démultipliée par une ondulation inflationnaire, où Igor, dans cette œuvre, agit sur la physique pour sortir du marché impérialiste dominant qui rend immatérielle la possibilité sociale de l'altérité, de la conversation. Une physique inconnaissable, donc, comme dynamisation multidialectique de ce qui fait d'Igor un contemporain en lutte contre l'espace-temps saturé de la digitalisation intellectuelle et humaine, le temps bref de la vie de ce personnage qui, au fond, n'a fait que délirer une grandeur aussi imaginaire que peut l'être l'épouvantail dominant de ce cinéma de l'illimité qui démultiplie ses écrans dialectiques, par une amplification technique de la virtualisation supposant un rapport au réel qui s'en tient contemporain et non qui s'y pose comme fuite au-delà de sa réalité. Tel est au fond là où je vais. C'est l'idée d'un espace-temps du langage qui a disparu dans ma propre perception de ce qu'est la poésie face à une nouvelle époque poétique qui démultiplie ce langage par une stratification ondulatoire de langages opposés et donc coupant le texte dialectique du monde en des dispositifs inconscients de machines dialectiques et poétiques. La dialectique semble diluée par l'amoncellement inflationnaire des pratiques, chose bonne, mais qui peut s'avérer néfaste sans un rapport à un nouvel infini dialectique. J'entends infini dialectique, ce qui détotalise l'idée de dialectique, par une chaotisation intégrative de niveaux dialectiques parallèles. Est-ce peut-être, dans le sens où je parie sur un nouvel infini sidéral de l'acte, que les niveaux dialectiques que je superpose sont concentrés uniquement par l'acte solitaire de mon écriture, démultipliant les espaces-temps dans un autre temps, où la dimension du dépassement est questionnée face au morcellement ambiant, dont on voit bien justement qu'il a un problème grave d'atomisation et qui mérite pas un dépassement, mais une intégration du désir de dépassement comme amour cosmologique du temps infini, du silence. En ce qui concerne les éditions, je vais peut-être me tourner vers Actes Sud, Épaules ou encore Divergence, mais je ne sais pas, car cela relève de la contingence totale de la vie, comme le temps qui passe.
Souvent, pendant les moments de crise intellectuelle, je me mets à contempler l'univers comme si je dirigeais un orchestre qui joue une symphonie, comme si la forme symphonique démultipliait la foule de mes idées à la manière d'une psychanalyse sidérale qui chaotise son incommensurable infini. Quel incommensurable silence vous pousse à contempler le réel quand se met hors circuit le premier moment de faire surgir quelque chose par une œuvre ou par une intervention radiophonique? Est-ce au fond votre fascination pour la structure diffusément polycentrique des discours ou pour la structure concentrée d'un rivage sensible précis qui au contraire gravitationne la foule diverse de vos idées? Je vous pose ces questions car souvent avant d'écrire, je tente de simuler de manière abstraite le processus à venir de toute l'écriture, comme pour me préparer non pas à le réaliser, mais à en briser l'ordre rigide de la loi dialectique vers une mer infinie de bifurcations sans fin. J'ai remarqué que vos poésies et vos radiophonies ressemblent à des rhétoriques inflationnaires qui démultiplient leurs discours sans que nous soyons en mesure d'en stabiliser le capiton le plus mesuré, tel un Foucault poète qui erre pour ne pas se faire analyser par son Lacan logicien qui le neutraliserait comme Bigarré.
La puissance générique de la vie a pourtant fait que cette liberté antitotalitaire et cette anarchie révolutionnaire n'a pas pu aboutir à autre chose qu'à une vie cosmique en érosion volcanique de sa vérité hivernale de l'illimité. La vie tue, mais la liberté est éternelle. C'est pour cela justement que je crois de plus en plus en la force de la vie comme moteur cosmodialectique d'une anarchie interne à Marx et d'une liberté poétique interne à la critique de la raison pure. Comment rendre la critique de la raison de Kant accessible à l'idée d'événement? Question qui impose une autre. Comment rendre poétique la liberté révolutionnaire de contestation au-delà de la limite dialectique du concept? La libération n'est jamais finie quand surgit une révolution, mais la domination non plus, et c'est même pour cela que nous revenons au point de départ quand nous arrivons au terme d'une existence, car la vie, n'est-ce pas au final l'intervalle inflationnaire entre le néant et le monde, par surgissement gravitationnel du vide quantique du chaos, dans son accumulation dialectique et dans son érosion rhizomique.
Juste pour question subsidiaire, au sujet de la pièce sonore que vous êtes en train de composer à partir de mes courriels et peut-être de mes manuscrits, n'est-ce pas la réalité de la rareté des correspondances dans la vie, même par courriel, qui vous a inspiré cette idée d'un montage par une voix artificielle ?
Parce que vous questionnez quelque chose qui ne dépend pas uniquement de la crise climatique en elle-même, c'est celle d'une sensibilité poétique, musicale, dramaturgique et même cinématographique qui serait contemporaine d'un monde profondément dépendant de la science dans sa rationalité la plus technique et la plus performative.